qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Great war.
Sur CFM.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. Il est 20h et
20h. Vous allez bien?
Ça va.
Ça va et toi?
Très oui, bien. On est le mardi 25 novembre, si je dis pas de bêtises.
T'en dis peut-être. Mais je...
Voilà, les 20h. C'est les Roquets Rouges. Voilà, sur CFM, 107.9.
Et donc, c'est l'édito de Greg. Que je trouve qu'il a été un petit peu dirigiste là pour le début de l'émission là. Il veut pas qu'on passe de musique.
Préparation. Non mais vous
et
allez
je
comprendre.
Je sens que je vais constater.
Vous allez comprendre pourquoi. D'accord. En fidèle auditeur des Roquets Rouges, vous avez été nombreux à m'interpeller dans les rues de Rodez, sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi sur Viadeo et sur Beaugosse.com, ainsi que sur fandetripou.fr.
Ah oui.
Sur le dernier édito de Benjamin.
Sur Snapchat aussi, t'as reçu une photo de.
Oui, c'est vrai, mais ça on va en parler. Les réactions furent nombreuses donc sur les réseaux sociaux avec le hashtag Greg réagit ou encore avec le hashtag, non mais pour qui se prend le Vendéen dégarni? Il est vrai que la médiocrité de ses propos, dont je vous fais remarquer qu'il n'ose les assumer qu'à moitié parce qu'il va partir bientôt, a heurté les oreilles de nos compatriotes. S'appuyant sur l'édito de Guillaume, qui prônait l'utilisation du « nous » dans cet exercice qu'est l'édito,
bravo d'ailleurs,
il s'est permis de nous salir, de nous traîner dans la boue, de nous insulter, hashtag « à le salaud ». À l'écouter, le besogneux, comme le surnomme Jean-Luc Mélenchon, les Roquets seraient fans de football, favorables à un grand stade sur la forêt de Sivens, compromis pour le vote, avec le vote, pardon, de Ségolène Royal, hashtag, à le bof de droite. Et il continue, le Normand, en nous englobant dans son délire selon lequel nous serions des fervents partisans de houblon fermenté, venus de pays où il ne fait pas bon s'appeler Julien Mélissa, hashtag, seconde belge. Ce type qui pense que moins 17 degrés est une température impossible à supporter et qui préfère le fromage de vache à celui de brebis, insiste sur sa bêtise en prétendant que les Roquets Rouges aiment le rap, le hip-hop et toutes les musiques de dégénérés. Hashtag, où va la France ma petite dame? Alors je demande aux auditeurs de bien vouloir oublier l'édito de Benjamin et de le considérer nul et remplacer par celui-ci. Oui, car nous les Roquets, nous pensons qu'il est urgent d'interdire le foot, qu'il faut transformer les stades existants en jardins publics. Nous savons aux Roquets que le rugby est quand même un grand spectacle plein de valeur et d'abnégation, que le visage de Sébastien Chabal face au All Black lors de la Coupe du Monde de 2007 est quand même autre chose par rapport au coup de tête de Zidane.
Tu parles des deux coups de tête en finale contre le Brésil, c'est ça?
Je sais plus, hein, on s'en fout. Nous, aux Roquets, on vote pas pour Ségolène Royal, ni Cheminade ou Bayrou. On vote Mélenchon. Et d'ailleurs, on se demande encore pourquoi...
Il n'était pas candidat en 2007.
On se demande encore pourquoi faut faire une campagne électorale. Il n'y a pas à réfléchir ou à convaincre. Nous votons front de gauche sans poser de questions. Merde.
Nous, ça viendra, Greg.
Nous, Roquets, on trouve que la bière, ça va pour se désaltérer et qu'une Jupiler ou une Heineken suffit bien. On va pas filer notre pognon à des abbayes de moines ou de carmélites. Non, nous, c'est le Ricard, le matin, à midi, ouais. Midi sec.
Filons notre pognon à un industriel.
Midi, midi sec, midi 10, midi 12, midi 14, midi 16, midi 18, midi 20. Allez, un dernier quoi. Ok, mais le dernier. Non, mais j'avais dit que c'était... Pardon. Nous, les Roquets, on aime le climat véronais, son écart de température entre l'hiver et l'été. Et puis nous, les Roquets, si on a choisi ce nom, comme le faisait remarquer à juste titre Miss Roquette il y a 15 jours, c'est pour le rock et le rouge. Alors non, le hip-hop, c'est pas notre truc.
Le hip-hop et la bière, ouais.
Nous, c'est le rock, le bon, avec une prédilection pour le rock français des années 80-90. Les Shérifs, les Berru, OTH ou les Satellites, la souris déglinguée au réveil, Parabellum à midi, les rats au goûter et Ludwig 88 pour continuer. Ça, c'est les Roquets.
Oh,
Moi, président de la République, j'ai une très très...
Pas 10 ans, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Enfoiré, c'est les bolcheviques.
Nous voilà donc de retour après ce moment de musique.
Voilà, c'est forte, un scène du rock, du vrai quoi, ouais, pas du
rock français, pas de la chanson à texte,
pas du walk up, pas cela.
Mais bon, moi il y a une référence que j'ai pas compris dans ton édito.
Oui, alors Greg, tu vas être obligé d'expliquer ta blague.
Ouais,
voilà,
laquelle,
ça t'apprendra.
Tu parlais pas
sur la Belgique,
d'un Laurent et d'un Mélissa. Qui sont ces gens-là?
Ah, c'est des amis belges de Bruxelles.
Non,
c'était pas ça.
Enfin, je reprends sa chronique.
Ouais.
C'est où?
De quoi? Je vois pas de quoi vous
parlez.
Franchement, les auditeurs doivent s'embêter, là.
Un pays où il ne fait pas bon s'appeler Julie et Mélissa.
Bon, j'avoue.
Qui sont Julie et Mélissa, monsieur Pogzernin? Ouais. Les Français veulent savoir.
Les victimes les plus...
Merde, je t'ai appelé par ton nom de famille.
C'est pas grave. Les victimes les plus connues, alors c'est affreux parce que les victimes les plus connues de...
Ouais, les stars, ouais.
Non,
c'est quand même ouf parce que tu fais ton coming out sur ton vrai nom de famille, sur ça. Je te mets dans le contexte quand même.
Donc,
attention à ce que tu as.
Donc des enfants qui meurent violés, c'est rigolo. Bravo. Bravo, Greg.
C'est rigolo. Tu l'as mouton?
Eux, ce matin. Non, je vais mal expliquer.
Oui.
Moi qui, avec mon nom, vais me présenter à des élections prochainement.
Oui, c'est bien ça.
Voilà, non, mais allons-y.
Mais c'est bien le buzz, le scandale, ça marche.
Ce matin.
J'enverrai une copie de l'émission à Florence Cagliard.
Ce matin, j'écoutais France Culture. Voilà.
C'est te rattraper, oui.
Il y avait
une émission sur les pédophiles, voilà.
Non, mais justement, tu crois pas si bien parler, mais si bien dire, pardon, parce que tu parles pas très bien, mais il y avait donc une émission sur France Culture où il parlait de l'importance de l'écrit. Et il y a un gars, j'ai pas retenu le nom, voilà.
Oui.
Ça captait mal, j'étais vers de Cazeville.
Oui.
Voilà. Et donc, qui parlait de l'importance de l'écrit et que l'écrit était partout, même là où des gens, alors c'est lui qui le dit, et justement l'animateur de l'émission le fait remarquer, il dit même où des gens, on pourrait imaginer qu'ils...
Non mais là, tu nous endors avec
pas,
des conneries. Là.
Et c'est-à-dire dans les stades de foot, il y a des problèmes de son, mais c'est pas grave. Mais on s'en fout, Benjamin Lomaillet. Voilà. Et que l'écrit, voilà, c'était important avec la banderole, que sanguin, chômeur, pédophile,
bienvenue chez les...
Et c'est vrai que
ça,
coup,
c'était drôle. Pour
non, mais j'avais écrit ma chronique ce matin à 6h du matin, et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je la modifie ou pas? Et non, j'ai pas modifié. Bon, mais à coup de pas, c'était pas le meilleur goût, mais en plus, ils ont pas compris. Vous n'avez pas compris. Ouais. Voilà.
Autre précision, tu dis dans ta chronique que je ne vais pas rester jusqu'à la fin. Je ne devais même pas venir.
Oui, mais
je suis venu à ta
merci
demande.
À toi.
Parce que tu voulais m'avoir en face pour ton édito,
bah, oui.
Vu que tu m'attaquais, bro. T'es gentil, hein.
Normand Desgarny, Vendéen.
Alors, on s'entend bien sur les questions politiques à peu près, et le clash qui reste à avoir, c'est sur la musique, si j'ai bien compris, hein.
Ouais, et sur le rugby et le foot.
Ouais, le sport. Voilà,
bon.
Bon, bref, moi, il faut que je m'en aille dans pas longtemps, là, dans 5 minutes.
Tu voulais nous parler de...
Ouais, je voulais parler un peu des élections départementales. Donc, Grégory Pogzernin, qui fait des blagues sur les pédophiles, sur les victimes de pédophiles, c'est encore pire. Sera candidat, normalement, sur Sébazac.
On a vu mieux quand même que la semaine de campagne électorale.
Ouais, c'est clair.
Ça, tu le mets pas au zapping, mais David, ça existe sur CFM, mais voilà.
Donc, à part ça, il y a une nouvelle. Je sais pas si les roquets sont au courant, Greg, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un candidat qui s'est déclaré sur René Château.
Juliès?
Eh non, qui s'appelle?
Jean-Louis Roussel?
Eh non, il s'appelle Bernard Cortigeau.
Mais qui est Bernard Cortigeau?
Eh ben, c'est le directeur général des services de la commune de Les Châteaux.
Mais il est en exercice,
il est en exercice, il a été recruté par Juliès, conservé par Kérolian, et il est candidat aux élections départementales.
Et il est poussé par qui à le faire? Par Juliès ou par Kérolian?
Et c'est la question qui peut se poser, effectivement. À l'en croire par personne, par lui-même, il assure que personne ou presque n'était au courant avant qu'il en parle à la presse, que sa candidature est citoyenne, son parti, ça va beaucoup plaire à Guillaume. J'ai pensé à toi.
Le gars de cette presse, quand même, alors il dit, j'ai les valeurs de gauche.
Oui.
Et mes parents mon père et mon grand-père étaient mineurs.
Oui.
En gros, je suis de gauche, je peux prendre AGNIS, enfin je peux prendre OPS, et je suis mineur, je peux prendre un côté Front de Gauche. Enfin, moi je l'ai lu comme ça, en tout cas.
Oui, après, le papier de Centre Presse était relativement court, il dit d'autres choses.
Il a programmé?
Il a des idées? Il a quelques idées, bon, je vais pas les développer, c'est pas forcément intéressant pour l'instant, surtout qu'on connaît pas les compétences du conseil général dans un an, donc ça a pas grand sens d'avoir des idées aujourd'hui, mais enfin bref.
Mais, je vais le dire clairement, ça a pas de sens d'avoir des idées. De campagne, quoi. Non, parce que les gens qui se présentent, t'as déjà rire.
Comment c'est bien sa campagne?
Alors, moi, je fais des blagues sur les victimes de pédophiles et puis j'ai pas d'idée.
Parce que de toute manière, ça sert à rien.
Non. Attends, clairement, les candidats.
Les bonnes tarascores,
mon pote. Clairement, les candidats qui se présentent à cette élection, qui l'invitent.
Toi, par exemple.
Moi, par exemple, n'ont aucune idée des compétences qui seront données à cette assemblée. Sur les dernières cantonales en 2011 où je me suis déjà présenté, tu peux avoir toutes les idées que tu veux, mais on dit que c'est nominal, mais au final ça finit en assemblée exécutive avec des obligations quand même très légales, sur l'axe social notamment, qui est une grosse part du budget.
En fait, le conseil général a très très peu de marge de manœuvre. Voilà. Avait déjà peu de marge de manœuvre. Après, et ça sera sans doute.
Après, c'est de la philosophie de la mise en place de ces politiques que ça peut se jouer. De dire oui, je vais venir et je vais vous faire une mini crèche sur votre canton, c'est de la connerie.
Vous faire refaire la route.
C'est de la connerie, et moi, c'est la campagne que je ferai, ça sera ça. La dernière fois, j'avais pris la petite chemise blanche, en fait, c'était un pull et chemise à coller, en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'était une fausse chemise. Hein. Et là, j'ai décidé que j'aurais le sweat capuche sur les affiches, quoi. Bravo. Voilà. Et, non, mais c'est la connerie.
Courage.
Chemise rouge, on dirait Chavez, l'autre.
Avec le portrait de Marc Dutroux sur le sweat capuche.
MD, tu sais. Oui, Guillaume.
En même temps,
tu as quelque chose d'intéressant à dire?
Ouais, Cortigeau qui veut piquer des voix à la gauche et au front de gauche. C'est pas non plus, enfin, c'est pas trop dans l'air du temps, il va pas piquer grand chose, hein. Là, j'en parlerai dans ma chronique d'ailleurs,
beaucoup de. Ouais,
c'est.
Ouais, piquer.
C'est mal. Enfin, toujours été. C'est franchement plus dégueulasse de faire les poches un cadavre que de se foutre de filles qui sont mortes il y a 15 ans,
hein.
Ah, mais au-delà.
T'en penses pas, Greg.
Pour finir, avant de partir, juste.
Tu pars où?
Je vais voir monsieur le maire de Les Châteaux, justement. Et en fait, voilà, je voulais dire, l'intérêt de la candidature de monsieur Cortigeau, que personne ne connaît ou presque, hein, c'est que ça fait chier tout le monde. Ça fait chier le maire de Les Châteaux, qui est UDI, alors que Cortigeau a tapé, enfin, il est pas UDI, mais il est réputé proche de l'UDI. Alors que pendant sa conférence de presse, Cortigeau a tapé sur Jean-Claude Luche très sévèrement. Il explique que s'il est candidat, c'est parce qu'il a été choqué par le clientélisme dont Luche a fait preuve pour être élu sénateur.
Donc, c'est un argument. C'est vraiment un argument politique, ça.
Eh ben oui, n'empêche que c'est très vrai.
Le mec sans parti dans son salon, choqué par le clientélisme de Luche, je vais me présenter au départemental.
Oui, non, mais c'est sûr qu'à mon avis, c'est pas la seule raison. Ça fait un peu léger. Moi, ça m'a choqué aussi. C'est pas pour ça que je suis candidat aux élections départementales, effectivement. Il y a effectivement sûrement
du travail.
mais donc ça a fait chier donc Kérolian parce qu'il vise Luche, qui est un proche politique, hein, on peut le dire, même si c'est pas officiel, mais on le sait. Il fait chier Juniès et le Parti Socialiste parce que c'est un candidat de gauche, enfin qui se présente comme de gauche, mais sans l'étiquette PS. Il fait chier le conseiller général sortant, Jean-Louis Roussel, qui lui aussi est de gauche, mais qui n'est ni socialiste ni sans étiquette comme Cortigeau. Donc il fait bien chier tout le monde quand même. Et rien que pour ça, l'info est intéressante et amusante. Voilà.
Ouais, enfin, oui. Après, c'est dommage que la politique, ça soit amusant, quoi.
Ah bah écoute, on va mieux en rire qu'en
au moins
avec toi on va bien rire, hein, j'ai l'impression
c'est clair. Mais non, mais j'ai envie de taper sur le journaliste.
Voilà. Mais viens te la mettre, on t'attend.
Ah ouais. Avec l'autre petit de phrase 3 là. Ouais. Bon, allez, une remarque.
Bisous, je me casse.
Salut Benjamin. Benjamin.
Tu es vexé, voilà. Je lui propose un duel, il se casse. Petite. Allez,
c'est quoi la suite?
On va écouter, mais on parlait des partis politiques. Moi, je vous propose toujours du rock'n'roll. C'est la surprise, le parti de la jeunesse.
Ah.
Ils crient, ils mordent et ils s'enfuient.
J'ai l'impression que Greg, tu m'as piqué tous mes CD. Parce que c'est des musiques que j'aurais pu mettre.
Mais on a le même âge, hein.
Ouais.
Voilà. On dit que je suis vieux, mais on a le même âge.
Oui, 6 mois près.
Voilà,
c'est vrai,
je suis un peu plus âgé que toi, mais ouais. Voilà. Donc c'est la même génération.
C'est vrai.
C'est la bonne musique.
Ah oui, non, je dis pas.
Et moi, puis, je découvre tout.
Mais voilà, tu vois, hein. On aime bien faire découvrir des choses aux jeunes Rockettes. Hein. Voilà.
Et donc toi, Rockette, tu vas nous faire découvrir autre chose.
Tes vacances.
Oui,
tes vacances.
Oui, oui.
T'as été à la Grande Motte avec tes grands-parents.
C'est ça, exactement.
D'ailleurs,
tu es parti
en vacances avec Guillaume, c'est vrai.
Et oui. depuis la rentrée, depuis la nouvelle saison des Rockettes, je vous promets une chronique sur la Bolivie. Eh bien, voilà, ça y est, la chronique sur la Bolivie, la dernière de la session des chroniques Amérique latine, arrive dès maintenant. Alors, j'avais prévu de faire un truc super bien, puisque je le prévois depuis 2 mois. Et puis, en fait, bien sûr, je m'y suis prise au... Oui, et que je suis au chômage, accessoirement, mais je suis très occupée. Je m'y suis prise au dernier moment. Donc, du coup, j'ai des différents papiers devant moi et je vais essayer de faire un truc un peu structuré, mais je suis pas sûre d'y arriver.
Attends, quand même, je me permets. Il n'y a pas Benjamin, on a un peu plus de temps pour parler, du coup. C'est quand même une gosesse, quoi. J'ai eu du temps, je vais faire, c'est le gros bordel de mes papiers, mais je vais faire un truc structuré. Allons, on écoute. Hein, on
je vais essayer de faire un truc
allez,
structuré.
On écoute la structure.
Donc on est la dernière chronique que j'ai faite, si vous vous rappelez bien, on était dans le nord-est de l'Argentine, dans la région de Misiones. De là, on a pris plusieurs bus et des taxis pendant en cumulé plus de 24 heures pour arriver par le nord-est de l'Argentine jusqu'à la Bolivie. Et plus précisément dans une petite ville qui s'appelle Tupiza, qui est au sud de la Bolivie. Donc la Bolivie, c'est un pays qui est très pauvre, hein, qui a un taux de pauvreté autour de 60%.
Ça pue la misère.
Pas tant que ça au final. Enfin, j'ai eu l'occasion de visiter des pays où on sentait plus la misère. Enfin.
Palavas.
Par exemple, notamment, oui, Palavas et Béziers. Non, c'est plus. Enfin, là, nous, on est resté pendant une petite semaine. On est resté dans une région, la région de Potosi, qui est au sud de la Bolivie et qui est une des régions la plus pauvre de la Bolivie. Et du coup, c'était pas. Enfin, la pauvreté était pas choquante dans le sens où on a vu quasiment. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu personne à la rue. Et dans le sens où tout le monde était à peu près pauvre au même niveau. Donc il y avait pas des gros. Enfin.
Heureusement que tu ne te présentes pas au départemental, parce qu'avec un discours comme ça.
Non, mais c'était moins choquant que dans certains pays où on peut aller, où on se rend compte du luxe de certains, avec à côté le dénuement le plus total pour d'autres.
Comme de Casseville, avec l'entreprise Cantos à
l'entrée. Par exemple, voilà.
Et Fauvergne plus loin. Voilà.
Donc la Bolivie, c'est catholique principalement au niveau des religions, mais ils ont gardé beaucoup de croyances ancestrales qui leur viennent des Incas, comme par exemple le culte de la Pachamama, de la Terre Mère, que les catholiques se sont arrangés pour faire tomber en même temps que la Sainte Marie dans le calendrier chrétien pour que ça passe mieux, un peu comme ils ont fait avec les Celtes pour je me rappelle plus comment ça s'appelait les fêtes de Noël, ouais c'était les Septans, non je sais plus comment ça s'appelait, enfin il y avait une fête païenne à ce moment-là, ils l'ont fait coller avec la naissance de Jésus et hop emballé, c'est pesé.
On appelle ça le syncrétisme.
Je connaissais pas le terme, merci Guillaume.
Je vous l'apprends.
Il n'a pas de la télé, mais il a du vocabulaire.
Ah ouais, c'est fou, hein. Quand on arrive en Bolivie, c'est assez surprenant. Enfin, c'est magnifique. Il y a des paysages de tarés. Il y a très peu de tourisme et il n'y a pas de pollution visuelle. Il n'y a pas de publicité dans la rue. Les seules rares publicités qu'il y a, c'est pour des entreprises nationales, puisque il y a en Bolivie une politique de nationalisation de la plupart des entreprises.
Madame Macron.
Voilà. Et ça marche bien. Ça marche bien. Je vais vous parler un petit peu de Evo Morales, le président de Bolivie, qui est président depuis 2006. C'est la troisième fois qu'il est réélu. La dernière fois qu'il a été réélu, c'était le mois dernier.
T'entends, François ?
Il a été élu à 61% au premier tour. Pour le troisième mandat, donc voilà.
Et il n'y avait pas que des électeurs de ce parti.
Et il n'y avait pas que des électeurs. Il y avait d'autres listes qui se présentaient en face, mais qui ont pas fait énormément, quoi.
Ne pas trop parler dans les journaux de TF1, de France 2, hein.
Curieusement, oui.
C'est bizarre.
Hein. Non, ouais, mais d'ailleurs, j'ai été chercher quand est-ce qu'avaient eu lieu les dernières élections. C'était le mois dernier. J'ai rien entendu là-dessus. Qui ait eu ces élections.
En même temps, tu n'écoutes pas la radio. Et
en même
pas la
temps,
télé.
Voilà, j'ai pas la télé. Donc, depuis 2006, le pays est dirigé par Evo Morales, qui est le premier président amérindien de la République bolivienne depuis 1839, le premier qui se revendique d'origine amérindienne, et il a lancé tout un tas de réformes. Depuis son arrivée au pouvoir. En 2006, il a fait une nationalisation des hydrocarbures pour que 82% des revenus de ces hydrocarbures soient reversés à l'État. Il a autorisé une seule compagnie, la compagnie nationale, à commercialiser les hydrocarbures dans le pays. En 2008, il a changé la constitution bolivienne. Maintenant, elle dénonce l'État colonial, républicain et néolibéral et prône un État unitaire, social et de droit plurinational communautaire, puisque la Bolivie est un pays très complexe parce qu'il y a de nombreuses ethnies qui jusqu'à présent étaient complètement oubliées au profit d'une culture unique,
centraliste
exactement, avec la langue espagnole qui est toujours la plus parlée, mais qui était la seule et qui est encore la seule dans les écoles primaires à être enseignée. Sur cette nouvelle constitution, on reconnaît 37 langues en Bolivie pour 10 millions d'habitants.
Ça peut être un bordel quand même.
Ça peut être un petit peu le bordel, oui.
L'important, c'est de se comprendre.
Voilà. Bon, ils parlent quand même tous espagnol, donc ils arrivent à se comprendre, mais Evo Morales essaye de mettre en place une plus grande reconnaissance de la culture, des différentes cultures, des différentes ethnies qui vivent en Bolivie.
T'entends ça, Mélenchon? Il est pas trop
langue régionale. Il a du mal. Ouais.
Il a notamment mis en place des cursus universitaires en langue quechua, en langue... Alors, j'arrive jamais à me rappeler le nom des autres ethnies.
Nous aussi, on a des étudiants qui vivent en quechua.
Donc, oui, il y a les premiers étudiants qui ont fait leurs études universitaires dans leur langue traditionnelle, qui ont été diplômés cet été. Quand on y était, on a vu passer toutes les festivités à cause de ça. En 2010, sous l'impulsion des communautés locales andines et du président Morales, la Bolivie introduit une loi sur les droits de la terre-mère qui accorde des droits à la nature au même titre que les droits de l'homme. Donc, si je me trompe pas, c'est le premier pays qui a des lois comme ça, qui place la nature, qui octroie à la nature des droits comparables à ceux de l'homme.
Tintin Carcenac.
Je me demande s'il n'y a pas l'Équateur aussi qui a fait ça.
C'est possible, l'Équateur aussi, ouais. Ouais. En Bolivie, le vote est obligatoire dans le pays, sinon il y a une amende très élevée, ce qui fait que aux dernières élections, 6 millions de Boliviens se sont déplacés pour aller voter. Ce qui a abouti donc à la troisième élection.
J'attends nos auditeurs de droite si on en a. Et si ça, ils ont qu'à y aller là-bas, la Bolivie.
Oui,
on en vient.
On en vient. C'est un pays, c'est quand même un pays très sympa, très très sympa. Et depuis, alors ça, c'était pour Benjamin, c'est dommage qu'il soit parti, mais il l'écoutera. J'ai trouvé une petite anecdote qui m'a fait rire. Depuis le 18 mai 2014, Morales, donc le président de la République bolivienne, a un contrat professionnel avec un club bolivien de football, le Sport Boys Wands, et il joue en première division, du coup, pour une année.
Le président?
Le président, 55 ans. Faut dire que, avant d'être président, outre d'être syndicaliste, il était berger de lama et, si je me rappelle bien, il vit toujours chez sa mère.
Ça, c'est un souci.
Ça, c'est une dédicace à un collègue, je le nommerai pas, mais qui vit toujours chez sa mère.
Et voilà. Donc, bon, j'avais pas prévu de faire une critique sur Evo Morales, mais c'est quand même un personnage qui est intéressant. Quand on regarde la télé bolivienne, une info sur deux, on entend parler de Evo Morales, qui va inaugurer ceci, qui va faire
cela.
C'est
pareil avec Marine Le Pen.
Oui. Oui. Ça apporte pas la même dynamique, quoi. Il apparaît pour les fêtes traditionnelles, pour les signatures de contrats, etc. C'est marrant. Enfin, de notre œil d'Européen. Voir arriver, c'est curieux, oui, avec des chemises amples et des colliers de fleurs autour du cou et dans les cheveux.
Desca faisait pareil.
Enfin bon, je tourne la page Evo Morales.
Juste, tu parles d'Evo Morales et tout à l'heure, on a parlé de Correa, le président de
l'Équateur.
De l'Équateur, merci. Il y a un très bon documentaire de Pierre Carl qui est en train de sortir, qui est disponible gratuitement sur les réseaux sociaux, du moins la première partie.
Les ânes ont soif, c'est ça.
Voilà, les ânes ont soif, donc, et il est disponible gratuitement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et avec une souscription pour faire la deuxième partie là-bas. C'est pourquoi cet économiste de talent reconnu et qui met ses méthodes socialistes en place dans son pays et où ça fonctionne très bien est venu en France et a fait plein de conférences en Europe. Pourquoi les médias n'en ont pas parlé? Et je vous invite à aller le voir sur Internet. Voilà.
Merci. Rappelle-nous le titre.
Guillaume.
Les ânes ont soif.
Voilà.
Les ânes ont soif. Ok, on regardera.
Il a bu sa bière.
Donc, on a été en Bolivie. Bon, c'était pour y jeter un petit coup d'œil, voir comment, quelle était la sensation. Mais c'était aussi pour faire du tourisme.
Et pour spéculer un peu sur les monnaies locales.
Non, pas en
Bolivie.
Pas en Bolivie, non, ça vaut rien là-bas. Donc, on a embarqué pour 4 jours à bord d'un 4x4 pour un trail fabuleux dans la région du Lipez et jusqu'au désert de sel d'Uyuni, qui est un désert de sel de 12 000 km².
Comment tu fais pour retenir tous les noms des endroits où tu as été?
Parce que ça me plaît.
Ah, mais oui.
Ça fait voyager rien que le nom, désert d'Uyuni. Tu le sens pas, le voyage, l'exotisme, là?
Il n'y a pas assez de tribus
dedans. Je reste quoi?
Donc pour ce voyage, on était avec un couple de Français et une Bolivienne.
Ah,
et c'était magique quoi. La Française du couple, c'était une superbe blonde avec des longs cheveux.
Vénard Guillaume. Ouais,
qui nous a dit « Ah mais moi Sarkozy, j'ai rien... Bon, je sais qu'il m'agouille mais quand même, c'est un gars, il est bien quoi, il me plaît hein. ». Il me plaît beaucoup.
Et Guillaume, quelle était ta réaction?
Ce qui se passe en Bolivie reste en Bolivie.
Ensuite, elle nous a parlé. Ensuite, elle nous a parlé de elle un petit peu de ses origines puisque elle était de Martinique.
Martinique, oui.
Elle s'appelle comment?
Clémence, mais je me rappelle plus.
Clémence, si tu nous écoutes sur CFM radio.fr.
Elle venait de Martinique, mais elle était pas une métro quoi, parce que je l'ai insultée j'ai eu l'impression de l'insulter en lui demandant si son père si un de ses parents était gendarme ou militaire, non, parce qu'en général
c'était des exploiteurs, c'est ça.
Voilà. En général, la plupart des gens qui ont vécu en Martinique, des Blancs qui vivent en Martinique, en tout cas de ceux que j'ai rencontrés, c'était toujours suite aux mutations de leurs parents, quoi. Et elle nous dit « Ah mais non, mais pas du tout, moi je suis une mulâtre. » Alors, si, elle l'a dit, alors fallait chercher le sang coloré quand même. Et oh, ma nounou, elle faisait tellement bien les recettes de bananes, oh, à l'exploitation de mon grand-père, blablabla. Voilà. On a adoré.
Clémence. Vous êtes dévoilé un peu ou?
Bah, on a parlé. Guillaume a parlé de sa rencontre avec Evo Morales.
Oui, parce que je connais personnellement Evo Morales, mais j'en parlerai plus tard. Et oui.
Non.
Si.
T'as rencontré Evo Morales.
Oui, tout à fait. Mais il n'était pas encore président.
Autant moi j'ai vu le tien concert, autant toi t'as vu Evo Morales.
Exactement. Voilà.
Respect.
Il était venu en France à la fac de Pau, figure-toi.
Et à notre foutre.
Il était président du syndicat qui s'appelait le MST.
Il en est guéri.
Ouais. Maintenant il est au MAS.
Non, c'était le MAS. Ouais, je confonds le MST, c'est au Brésil. Non, il était président du MAS. Du mouvement pour une alternative sociale.
Il paraît qu'au Brésil il y a beaucoup d'MST. Ouais.
Oui. Allez, on continue, Miss Rocket, on t'écoute.
Dans la voiture, il y avait aussi une Bolivienne qui était en mission. Alors, on n'a pas tout suivi de ce qu'elle faisait exactement. On a parlé un petit peu avec elle. C'était pas une farouche défenseuse de Morales. Bien au contraire, elle était pas vraiment super fan.
Et on l'a pas nu avec les tripes de Clémence.
Non, on l'a laissé partir avec un avertissement. Mais ouais, et donc on a discuté un petit peu avec elle, donc elle nous a dit certaines choses que j'ai cherché un petit peu, j'ai pas réussi ni à confirmer ni à infirmer. Elle nous disait que pour être fonctionnaire en Bolivie, il fallait avoir sa carte au MAS et que
normal.
Donc le parti de Morales et que
comme ça en France avec la CGT.
Et que les cotisations étaient prélevées directement sur le salaire. Bon, j'ai pas pu vérifier si c'était vrai ou pas. Elle a quand même pas mal mitonné le temps qu'on était avec elle, donc je ne sais pas à quoi m'en tenir. Sur le retour, on a discuté un petit peu avec parce qu'on a déposé les autres à Uyuni et on est rentré à Tupiza, Guillaume et moi, avec le chauffeur et le cuisinier qui nous avait accompagnés pendant le trail.
Vénard de roquette.
Ouais. Et du coup, on a pu discuter un petit peu de la politique de Morales et de si ça leur plaisait ou pas. Alors globalement, ils étaient très contents. Ils étaient très contents de ce qui s'y passait, notamment en étant de cette région. de Potosí, qui est très rurale, qui est une des moins peuplées et qui est une des plus pauvres de Bolivie, parce que notamment Morales met en place des politiques qui favorisent le retour au rural, puisqu'il y a un gros problème en Bolivie, comme dans beaucoup de pays, et pas que des pays pauvres, de grande précarité aux alentours des villes, de gens qui quittent les campagnes parce qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont rien, pour essayer de trouver du boulot à la ville et qui se retrouvent dans des favelas, dans des conditions de vie pas possibles, quoi. Et donc, Morales, il est en train de mettre en place des politiques qui favorisent un retour à la terre. Ça passe par le don, puisque l'État bolivien est propriétaire de la terre, donc il donne des terres dans les zones rurales pour que les Boliviens puissent des villes puissent aller s'installer à la campagne. Il y a des facilitations de crédit.
Facilité
de crédit, merci, je savais plus comment.
Tu veux m'empêcherai là.
Je te l'emprunterai pour la prochaine chronique.
T'as dit quoi,
des facilitations.
Facilitation, ouais.
Facilitation.
Ouais, non mais c'est bon, c'est la fin de la chronique, je l'ai pas préparée ou pas bien, voilà.
OK. Donc,
on discutait un petit peu aussi de comment ça se passait pour l'école. L'école est gratuite en Bolivie jusqu'à l'université. Même l'université est gratuite. Alors, je me demandais s'il y avait des écoles privées au même titre. Enfin, vu toutes les nationalisations qu'il y a eu, le chauffeur du 4x4 nous disait qu'il y avait toujours des écoles publiques et des écoles privées qui avaient à peu près le même niveau scolaire, quoi. C'est pas genre tu payes, donc tu as une meilleure éducation. La grosse différence, ça se joue que quand tu es à l'école publique et que tu es... Enfin, quand tu es parent, que tu as tes enfants à l'école publique, tu es obligé de te taper toutes les réunions parents-prof. C'est normal. Une obligation. Et toutes les réunions de commission... Enfin, je sais pas comment... Enfin, je suis pas sûre même d'avoir bien compris parce que c'était en espagnol et que mon espagnol n'est pas parfait. Mais quand il y a des réunions pour penser à comment fonctionne l'école, comment améliorer l'école, les parents y sont aussi conviés. Donc, quand on est à l'école publique, il faut participer. Voilà. Et c'est un petit peu le propos que nous a tenu Valerio. Et c'est ce qu'a dit Guillaume. Ah ben, je t'en donnerai de la démocratie participative.
Comment ça? Tu veux dire que les gens sont emmerdés parce qu'ils doivent faire des réunions
bah c'est ce
démocratiques
que nous disait,
et ils payent, ils préfèrent payer pour
ils
aller
préfèrent
dans
payer pour aller
dis
dans
donc hé hey, le collectif citoyen, vous avez entendu? Je dis ça, je dis rien, hein.
Laisse-les tranquilles, on en a plus parlé d'eux, tu vas les réveiller là.
Collectif citoyen, sachez que Guillaume m'a obligé à mettre ça dans ma chronique.
Quoi?
Non, je déconne. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour la Bolivie.
Bon, vu que tu as bien travaillé, je vais lever mon veto exceptionnellement. Est-ce que tu as une musique à nous mettre pour illustrer ta chronique?
Ah ouais, je vais vous faire découvrir en exclusivité française Yarita avec Que Fue de Nuestro Amor.
Numéro 1 en Bolivie.
Numéro 1 en Bolivie et dans toute l'Amérique latine si on en croit Yarita. Voilà, on écoute.
Categoría internacional. amor. Adiós.
Y Anita, cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada experiencia más sabio. Toma riesgos sin temor, si ganas serás feliz, si pierdes habrás aprendido. ¡Ay!
Sin compasión, aquí me tienes sufriendo. Sin compasión, aquí me tienes llorando. Sin compasión, te has marchado con otra. No hay sentimiento en tu corazón ingrato. Sin condición, mi amor te entregué un día. Sin condición,
mais c'est pas juste, vous l'avez coupé avant la fin.
Non mais sinon, c'est bon, on a fait 5 minutes là, voilà, c'est faut savoir arrêter quoi, enfin, c'est...
Non mais je t'explique Greg, non, pourquoi mais... je tenais à cette musique, c'est parce qu'on s'est retrouvés dans le 4x4 pendant 6 heures d'affilée, il y a ce CD qui a tourné en boucle, et que toutes les chansons, déjà vous vous rendez compte, sur 5 minutes ça se répète quand même pas
enfin,
mal,
mais
toutes les chansons
mais tu peux me tutoyer parce que d'ailleurs on a plus d'auditeurs de toute façon. Mais et du coup, enfin moi j'ai un gros dilemme là parce que tout à l'heure on a dit que je me présentais aux élections départementales. Et du coup, enfin j'hésite à te sortir des blagues là qui arrivent ou me retenir un petit peu quoi.
Bah, oui. Oh, pour tourner, tu peux sortir. Là, ça, non, là, pour foutu. Hein,
je me retiens. En plus, elle aurait pas beaucoup de fond de main. C'est ce que j'avais dans la tête. Allez, je suis plus en année du coup.
Bah moi je peux.
Comment ça s'appelle le morceau si les gens veulent le retrouver?
C'était Yarita, la chanteuse, et le morceau Que fue de nuestro amor.
Qu'est-ce que j'ai fait de notre amour?
Qui est devenu notre amour?
Voilà,
je crois. Un truc comme
bon,
ça.
Mais écoute, tu le cherches ton amour et tu le laisses tranquille. Allez, on continue avec notre ami Guillaume qui nous a fait une belle chronique, ouais, comme il sait les faire.
Avant de commencer ma chronique, je voudrais passer un message au nom de tous les rockers. Vous savez pas encore ce que je vais dire, mais vous partagerez, j'en suis sûr. Je voudrais envoyer un message à l'ancien technicien stagiaire Baptiste, qui nous a quitté il y a pas longtemps.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Baptiste.
Et
Non, 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 bien au contraire, il va très bien. Et d'après son profil Facebook depuis le 9 octobre, il est en couple.
Wouhou ! Ouais, bravo.
Marseillais. Comme... Félicitations.
Comme quoi, sa nouvelle coiffure, son nouveau style qui s'était donné,
ça a payé, voilà.
Oui. Donc, il avait pris le style aveyronnais, il est reparti sur Paris, il a refait une mèche et tout, là, voilà.
Voilà, Baptiste est en couple avec la petite Chiharu Tanaka. Elle aime le métal, le bricolage, le jardinage et l'humour juif, voilà. Elle est née le 19 mars 1996, ce qui lui fait 18 ans tout juste. Je savais, j'ai toujours su que Baptiste était un petit coquin, voilà.
Il est jeune en même temps.
Ah oui, 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 hein, c'est un besogneux.
Baptiste, il nous like sur Facebook. Voilà. Vous pouvez le faire aussi, nous liker les Roquets Rouges, on est sur Facebook. Donc Baptiste, tu as intérêt à commenter ça. On espère que tu écoutes, ça sera le test. Voilà. Voilà. De toute façon, tant que Baptiste ne commentera pas,
on fera un rappel,
on fera un rappel et on racontera la vie de Baptiste au Roquets Rouges.
Baptiste et Chiharu, d'accord, voilà.
Moi, je ne verrouille pas donc son profil Facebook.
Voilà, oui,
j'imagine.
Oui. Moi, j'ai vu la photo. Moi, j'ai mis un 12,5/20, hein, physiquement. Voilà.
Mais attention. T'es un gros connard.
c'est une bonne note, hein, je note sévère. voilà, donc tous nos vœux de bonheur à Baptiste. Hein.
Bisous Baptiste. Voilà.
Donc comment faire une chronique en moins de 10 minutes, puisque une fois de plus, cette émission a été improvisée et décidée à la dernière minute. Et comme maintenant, moi je travaille, hein, et on peut le dire, je travaille à la mine, hein, c'est assez dur, donc voilà. Donc ce que j'ai fait...
À la mine.
Oui.
À deux cases donc.
Oui, voilà.
Le crayon en mine.
Non, la mine.
La mine de crayon, quoi.
Le charbon, tout ça. Bon, enfin, moi je m'occupe de la bibliothèque, hein, la mine. Bon. Voilà. Et donc pour écrire une chronique, et ben c'est très
facile.
C'est la
soirée facile. Des coming out, hein, quand même. Bientôt, on va pouvoir dire ton nom, Roquette.
Bon, j'aime bien Roquette, moi.
Mm-hmm. Ça fait un peu Hamas, quoi.
Non, c'est bien Roquette. Bon, allez.
Allez.
C'est bien. Donc, pour faire une chronique en moins de 10 minutes, c'est facile. On recycle un article écrit sur un autre support. Je l'ai déjà fait, je le referai. Et là, j'ai pris ça sur le merveilleux blog qui s'appelle Le Courant Anarcho-Droitier. C'est mon blog. Allez-y, tapez sur Google. Vous le trouverez.
Il y a plein.
Ouais. Mais Courant Anarcho-Droitier, on trouve plus facilement. Voilà. Et donc, on prend cette chronique-là. On rajoute un tapis musical. On se fait couper la parole par Greg. Et le tour est joué. Ça nous fait une chronique.
Ni vu, ni connu.
Une chronique radio. Voilà. Donc, cette chronique s'appelle Pas de panique. C'est un peu une réponse aussi à Greg. Il y a deux émissions où tu nous parlais de la fierté d'être de gauche. Je vais relativiser un peu ça en parlant de la situation politique en général et de la situation de la gauche en particulier.
Si tu
me coupes pas, je vais pouvoir finir dans les temps. Donc en ce moment, les informations sont pour le moins anxiogènes. Je ne parle pas évidemment d'Ebola ou des islamo-nazis de Daesh. Sur ces sujets, je suis comme vous, j'assiste à leur évolution en regardant le zapping, je m'en désole et je me resserre des pattes.
Attends, je peux te couper?
Je sais pas si j'ai le choix.
Aujourd'hui, j'écoute France Info, France Culture, comme je disais tout à l'heure, j'écoute France Info. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a une vidéo qui circule avec des jeunes animateurs qui auraient simulé des exécutions à la mode Daesh sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, et que du coup, il y a une enquête en cours. Mais taisez-vous. Est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à regarder exécution Daesh sur Internet, quoi?
Bah oui.
Mais plus t'en parles, plus ils vont le faire, quoi.
Oui aussi.
Voilà. Tu peux continuer ta chronique.
Merci. Donc situation politique, machin, Daesh, Ebola.
Votez pour moi.
En France, la situation politique de notre doux pays. Donc en France, le torchon vichiste d'Éric Zemmour est en tête des ventes en librairie, ayant dépassé les ventes du dernier Harlequin d'une ex-première dame encore née, c'est dire le niveau culturel des lecteurs français. Sur Internet, les vidéos de Soral et Dieudonné franchissent tranquillou les 300 000 visites avec des pics à 1 million. Marine Le Pen est à 43% de bonnes opinions dans les sondages et le Front National a fait son entrée au Sénat. Le PS estime que sa seule chance de gagner la présidentielle de 2017 est de couper l'herbe sous le pied de la droite en appliquant le programme de celle-ci, et la droite essaie d'appliquer le programme du Front National. Youpi tralala. Nous avons ainsi la gauche de gouvernement la plus à droite de l'histoire. Ça tape sur les chômeurs, ça tape sur les Roms, les immigrés, les musulmans. À l'époque où j'écrivais cet article pour le blog, je disais que les syndicalistes et les fonctionnaires ne devraient pas tarder une autre à se prendre une avoinée. C'est fait, les syndicalistes se prennent une avoinée.
La CGT avec particulièrement.
La CGT avec les, soi-disant l'appart luxueux de Le Pen.
À quelques jours des élections de la fonction publique.
Comme par hasard, voilà. Stratégie politique visiblement inefficace, puisque Le Pen est donnée présente au second tour des présidentielles dans tous les cas de figure, et même victorieuse face à Hollande. La bataille culturelle semble à l'avantage de la droite borderline fasciste. L'esprit de solidarité reculerait. On intègre l'idée que le chômeur est responsable de sa situation. Les manifestations de masse sont celles des familles catholiques réactionnaires. À Calais, des milices de citoyens se créent pour traquer du clandestin. Youpi, tralala.
Je vais bien, tout va bien.
Ainsi, l'angoisse monte parmi les militants de gauche dont nous faisons partie. Revivons-nous les nouvelles années 30? Serions-nous à la veille d'une prise de pouvoir par l'extrême droite? Doit-on quitter le pays tant qu'il est encore temps?
On s'en fout après 36.
C'est bien. Non, non et trois fois non. N'ayez aucune inquiétude, vous pouvez poursuivre une activité normale. En effet, reprenons nos classiques de la littérature. Feuilletons quelques pages de l'ami Léon Trotsky ou mieux encore Daniel Guérin dont la passionnante étude Fascisme et Grand Capital va bientôt reparaître aux éditions Libertaria. Et alors, que sait-on du fascisme? Je cite... C'est en dernier recours que les manias de l'industrie lourde et les grands propriétaires fonciers encouragent financièrement et politiquement le développement du fascisme. Ils le font parce que leurs intérêts financiers et économiques sont menacés et que les démocraties libérales ne sont pas en mesure de les défendre. Pour paraphraser et compléter, les milieux d'affaires utilisent la carte du fascisme pour se protéger d'éventuelles menaces sur leurs intérêts. Cette menace serait celle d'une mobilisation sociale populaire visant à récupérer les richesses spoliées par le capital.
Quand tu vois que les autistes sont déjà dans la rue...
Oui, en gros, la carte brune contre la carte rouge, plutôt Hitler que le Front Populaire. Je ramasse mon point Godwin et je poursuis. Or, voyez-vous une menace rouge aujourd'hui en France? Y aurait-il un début de frémissement de mobilisation sociale?
À part ta chemise.
Ouais. Lisez-vous de la peur dans les yeux de Gattaz? Bien sûr que non. La manif du 15 novembre dernier a été un pétard mouillé, hein, sur les mobilisations sociales contre l'austérité. Ça n'a pas donné grand-chose.
Il y avait une manif?
Il y avait une manif à Toulouse le week-end dernier.
Non,
j'y suis pas allé, effectivement. Il y avait quoi? 3000 personnes. Bon, c'est pas top, quoi. Le front de gauche est à l'agonie, le PCF tient absolument à conserver son titre de champion du monde du cul entre deux chaises et navigue dans un univers parallèle. J'ai par exemple rencontré il y a quelques semaines des militants convaincus que Pierre Laurent seul dépasserait le score de Mélenchon aux prochaines présidentielles. C'est vous dire l'univers parallèle.
T'as aucun second degré en même temps. Toi.
Ah bon? Ah, c'était une blague. D'accord. Ça me rassurerait. Le parti de gauche s'enferme dans une posture de petit garde rouge, posture efficace si ça marchait, mais ça ne marche pas.
Tout à fait d'accord avec toi.
Je ramasse mon point à la palisse et je poursuis. Philippe Poutou quitte le comité exécutif du NPA, fatigué de cet aréopage de curé rouge et haute aristocrate de gauche, parisien de surcroît. Quant à Lutte Ouvrière, elle continue à distribuer des tracts renéotypés à l'entrée des usines partant de pluie, parce qu'ils ont toujours fait comme ça, même si ça marche pas. Vous voyez, tout va bien. Tant que nous, la gauche, focalisons sur nos petites querelles, tant que nous sommes convaincus que notre trou du cul est plus pur politiquement que celui de notre voisin, nous ne menaçons pas grand-chose. Prenons donc bien soin de poursuivre la construction de nos petites divisions, intello contre prolo, bobo contre beauf, citoyens immaculés contre vilains militants politiques, LGBTI contre hétéronormés, ceux qui croient au ciel contre ceux qui n'y croient pas, etc., etc. Inutile donc d'invoquer un régime autoritaire, ni milice, ni commissaire politique. Patronat et bourgeoisie n'ont pas besoin du fascisme pour démolir un mouvement révolutionnaire. On le fait très bien nous-mêmes. La médiocrité des militants de gauche est peut-être bien la garantie de notre survie. Surtout, ne changeons rien, sinon on aura le fascisme.
Bravo.
Voilà.
Allez faire un tour sur, comment tu l'appelles?
Le courant anarcho-droitier, c'est bien.
Voilà.
C'est drôle.
Voilà, c'est un super argument quand vous êtes lecteur du courant anarcho-droitier. Vous allez à la fête de l'UMA, vous allez au stand du NPA et vous nous dites « Alors, qu'est-ce qui va passer du Fight Club NPA ?» Et là, on te regarde méchamment et tu dis « Bon, je vais prendre trois bières. » Et là, oui, d'abord, ça fait être un peu de sous dans la truc et ils sont contents.
C'est une consécration.
Voilà. Pas des tapis sonores et tout, là, normalement?
Ah ouais, mais bon, on a branlé.
Voilà. Il nous reste combien de temps?
Plus rien.
On a fini.
Eh ben,
non, mais juste à la prochaine.
Non, juste, je voulais dire, il y a à l'amphithéâtre Bernard Lavillier qui passe, qui a encore des convictions. C'est
ouais,
un artiste,
c'est
voilà.
Vrai.
Il a du pognon et des convictions.
Voilà.
Voilà. Donc, si vous avez pris votre place, eh bien, tant mieux pour vous. Si vous l'avez pas, je crois que c'est peut-être trop tard. Voilà. On se retrouve dans. Dans 14 jours, nous serons donc le
X décembre.
Nous serons au mois de décembre. Voilà. On aura fêté la Saint-Nicolas. Et entre temps. Nous vous faisons la bise.
Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt. Et on va finir avec une de mes sélections musicales. C'est le chanteur des Satellites qui a fait une carrière solo. C'est Polo. Et comme quoi le rock, ça peut être aussi ça. Voilà.
Les routes pour nous étaient toujours assez belles. Pas de vaisselle, pas de maison. Un hérisson qui de temps en temps se mettait en boule. On était deux limaçons discutant innocemment des libellules du prix du vent sur un serpentin qui se déroulait lentement. On était des potes de saltimbanques, de somnambules, de nourrissons qui se nourrissaient du lait et de la voie lactée. Sans aucun souci, on s'est, comme on dit, lancé dans la danse. On a grandi comme une bande de deux bandits. On a appris la musique du bout de la nuit. Et le long des fils électriques, on a appris les notes. Où es-tu, mon pote? Pour nous était toujours assez long. Soudain passe un avion tout en haut dans le ciel. Une hirondelle nous avait balancé sur la piste aux étoiles. Il nous poussa des ailes, on était deux énergumènes professionnels de phénomènes de cerf-volant. On avait même de l'argent et du bon temps à passer, souvent la même idée des façons de le dépenser. Mais tombe la nuit, s'allument les lampadaires, s'allume la plume lapidaire des journalistes, s'allume le feu dans les deux yeux du commun des mortels. Tout là-bas sur scène, tombait la neige et tombait le vent et battait la musique de notre petite république. Quand mon violon tous les soirs illustrait les histoires que racontait ta guitare, mon pote. Sans ta guitare, il tourne en rond, il tourne comme un ours en cage. Les routes pour lui se sont faites un peu rares. Les chemins pour lui sont toujours un peu courts. Et moi, je cours encore toujours derrière mon ombre. Et les routes pour moi sont de plus en plus sombres. Où es-tu, mon pote? Où es-tu parti? 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 Tu m'en penses.